Alors ce matin, voilà, j'ai décidé de revenir avec vous sur quelque chose de fondamental, quelque chose qui peut paraître simple, qui peut paraître connu, mais qui est fondamental. Et ce sujet, c'est ce qu'on a chanté, c'est ce n'est autre que l'Évangile lui-même. Celui que Paul nous rappelle dans 1 Corinthiens chapitre 15 versets 1 à 5. Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux douze. L'Évangile, message central de la parole de Dieu. C'est un message qui est souvent connu, effectivement, que peut-être même certains penseront qu'il n'est pas nécessaire de reprendre ce matin parce qu'ils sont peut-être plus concernés, parce que peut-être qu'ils sont déjà convertis, connaissent déjà ce que je vais dire, ils ont compris l'Évangile et peut-être que c'est vrai. Mais je vais malgré tout parler de l'Évangile ce matin, parce que je pense qu'il est nécessaire de le faire. Nécessaire pour ceux qui ne le connaissent pas, qui n'ont peut-être jamais entendu, ou encore qui voient Jésus comme un grand humaniste, mais rien d'autre. Et peut-être est-ce le cas aussi de quelqu'un ici présent. Mais nécessaire aussi pour les enfants de Dieu, pour vous et pour moi. Car nous avons besoin de nous rappeler ce qu'est l'Évangile réellement, ne serait-ce que pour ne pas tomber dans l'habitude, dans la connaissance théorique. On sait ce que dit la Bible, on le répète, même jusqu'à ce que ça devienne des beaux concepts, mais en réalité sans plus penser peut-être à ce que ça veut dire, sans réaliser le poids de ce message qu'est l'Évangile. Et en tout cas, personnellement, je dois avouer que j'ai besoin de ce rappel. Encore dernièrement, en écoutant un message, il y a peu sur le sujet, ben, je me suis rendu encore compte à quel point on peut vite ne plus réaliser. Où je ne réalise plus à quel point je prends pour acquis ce que dit l'Évangile sans plus me remettre peut-être en cause suffisamment, sans plus toujours mesurer la portée, encore le poids de ce message, et sans plus le vivre pleinement. Alors pour revenir à l'Évangile ce matin, je ne vais pas repartir du passage que je viens de lire dans 1 Corinthiens, mais plutôt du chapitre 3 de l'Épître aux Romains, dans lequel l'apôtre Paul le définit très bien. Alors ce chapitre que nous allons lire, donc du verset 9 au verset 30, avant qu'on puisse le détailler ensemble par la suite. Alors je vais le lire, après je prierai avant de continuer. Donc dans Romains au chapitre 3. Quoi donc ? Sommes-nous plus excellents ? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, et la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être, par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier ? Il est exclu. Par quelle loi ? Par la loi des œuvres ? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs ? Ne l'est-il pas aussi des païens ? Oui, il est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Je vais m'arrêter là. Oui, Seigneur, je te remets encore ce temps, Seigneur, auprès de ta parole ce matin. Seigneur, je te prie de m'aider, Seigneur, à être ton serviteur, Seigneur, justement, Seigneur, dans cette lecture de la parole, dans ce partage, Seigneur, sur ta parole, Seigneur. Amen. Alors pour commencer, je vous propose de regarder en fait du verset 9 à 20, plus précisément deux natures, la nature de l'homme et la nature de Dieu. La nature de l'homme, voilà par quoi commence ce passage, avec une question: sommes-nous plus excellents ? Et dit autrement, sommes-nous meilleurs ? Et même encore plus précisément, sommes-nous meilleurs que les païens ? Parce que c'est aux Juifs que Paul s'adresse à ce moment-là, aux Juifs dont il fait partie, et il emploie le « nous ». Et pourquoi les Juifs pourraient-ils penser cela ? Alors, pour le comprendre, il faut revenir un tout petit peu en arrière, dans les versets précédents, où en fait Paul, dans ces versets, a confirmé une chose. Il a confirmé que les Juifs ont un avantage par rapport aux autres peuples. Lequel ? Ils possèdent les doctrines de Dieu. Elles leur ont été confiées à eux, pas aux païens, mais bien au peuple juif. Et si Dieu leur a confié ses doctrines, en d'autres termes, donc ses révélations, sa parole, elle-même, c'est bien effectivement que les Juifs doivent être meilleurs, non ? Parce qu'on ne confierait pas ce qu'on a de plus précieux à n'importe qui. En tout cas, je ne pense pas. Et bien, par ce verset 9, justement, sommes-nous plus excellents ? Paul veut justement tout de suite rétablir les choses. Oui, les Juifs ont un avantage, mais celui-ci ne les rend pas supérieurs aux païens. Et pourquoi ? Parce que les Juifs et les Grecs, les Juifs, les païens, sont égaux en ce qui concerne le péché et le salut. Parce que Juifs et Grecs sont sous l'empire du péché. Alors l'empire, si on prend le dictionnaire, ça nous dit que c'est un ascendant intellectuel ou moral de quelqu'un ou de quelque chose sur une personne ou sur une de ses facultés. Ce qu'il faut comprendre donc, que c'est être sous l'empire du péché, eh bien, c'est que le péché est pour l'homme donc comme un empire imaginaire qui prend le contrôle de nos émotions, de nos pensées, de notre vie. Et c'est pas rien. Et là, il est dit qu'il n'y a aucune différence entre juifs et païens. Tout le monde est concerné, tous sont tenus sous la malédiction due au péché. Que nous dit même le verset 10, il n'y a point de juste, pas même un seul. Ce verset, ce n'est pas un argument qui a pour but de nous convaincre qu'il n'y a pas de juste. Ce verset, en fait, il est repris du psaume 14, du verset 1 à 3. Et Paul, en fait, s'appuie sur l'autorité de Dieu même, sur la parole de Dieu même, qui le dit. Et alors, pour être juste, pour être droit, ou considéré comme droit ou juste, il faut normalement être parfaitement conforme à un standard, à des normes. Et le standard à regarder, c'est la nature de Dieu, c'est la loi de Dieu. Et que nous dit encore la Bible par rapport à ça ? Que personne ne peut se conformer au standard de la nature sainte de Dieu, au standard de cette loi sainte. Et donc, qui est coupable ? Qui est corrompu ? Les Juifs ? Oui. Les païens ? Oui. Donc, en fait, l'humanité entière. Tous les hommes sont pécheurs. Tous. Et si c'est tous, ça signifie que moi aussi, ici présent, je suis pécheur. Mais ça signifie aussi que vous êtes des pécheurs, tous. Que ce soit toi mon frère, que ce soit toi ma sœur, mon ami, tu es pécheur. Nous sommes des pécheurs. Et nous devons le reconnaître parce que c'est le premier point que l'Évangile veut nous rappeler. Et sans ce point de départ, qui est reconnaître notre péché, reconnaître l'état réel de l'homme, reconnaître qui nous sommes, des âmes perdues, incapables de faire le bien, alors il n'y a pas d'évangile. Ou plutôt, celui-ci ne peut rien pour nous. Et ceci est la vérité, et c'est une vérité qu'il faut accepter. Paul le reconnaissait, il allait même jusqu'à dire parfois, si on prend la première épître à Timothée, « Les pécheurs dont je suis le premier », il avait bien compris. Il avait compris que l'homme n'est pas quelqu'un de bon comme on voudrait nous le faire penser, comme voudrait nous le faire penser le monde. C'est un message qui est dur à entendre, dur à accepter. Et on peut même facilement penser que, ok, je suis d'accord avec le concept de l'homme pécheur, je connais ça, mais moi ça va encore. Je suis quand même une bonne personne. Alors peut-être qu'avant j'étais pécheur, mais maintenant ça va. Mais que répondriez-vous à la question suivante, justement ? Diriez-vous que vous êtes une bonne personne ? Alors probablement, oui, quand même. Mais je continue. Donc vous êtes une bonne personne, mais est-ce que vous avez déjà menti ? Ne serait-ce qu'une fois ? Oui, et je pense que personne ne peut répondre autre chose à cette question. Et qu'est-ce que ça fait de vous, un menteur? Si je prends une autre question, est-ce que vous avez déjà volé quelque chose, ne serait-ce qu'un stylo, un bonbon, peut-être parce qu'il se fait beaucoup aussi de la musique sur Internet aujourd'hui, ou autre chose? La réponse sera oui aussi. Et qu'est-ce que ça fait de nous? Un voleur. Et encore, avez-vous déjà convoité quelque chose, que ce soit la voiture, la maison du voisin, mais peut-être même une femme qui passait ou un homme dans la rue, ne serait-ce que par le regard? Et qu'est-ce que ça fait de nous, des personnes adultères de cœur? Juste par le regard, parce que nos pensées comptent autant que nos actes. Et je pourrais continuer comme ça, encore. Et c'est rien d'autre en fait que les commandements de la loi de Dieu. Sont repris. Et à quelle conclusion ça nous amène? On passe du statut de bonne personne, que l'on pensait, à pécheur, implacablement, pour tout le monde et sans exception. Alors oui, je veux déjà vous inviter ce matin à prendre ce recul. Prenez ce recul pour vous examiner. Prenez ce recul pour examiner votre vie, votre comportement, vos relations, sous le regard de la loi de Dieu, sous le regard de la parole de Dieu. Parce que toutes ces questions, toutes ces réponses, elles nous permettent de voir que selon notre standard, on estime encore une fois être une bonne personne. Une personne juste. Mais que face à ce standard qu'est la loi divine, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nous sommes comme tout le monde, pécheurs, coupables devant Dieu. Coupable. Encore une fois, l'homme a beaucoup de mal à se reconnaître coupable, que ce soit devant Dieu ou même devant quelqu'un d'autre. Se sentir perdu, c'est difficile à avouer. Et pourquoi, encore une fois, parce que je viens de le dire, l'homme ne se juge pas selon ce standard qui est celui de Dieu. Et qu'il préfère se faire ses propres mesures, ses propres critères d'évaluation, ça rassure aussi. Mais Dieu nous a donné sa loi, et sa loi qui reflète la sainteté et la perfection de Dieu. Alors cette loi, pour beaucoup, même pour la plupart des religions, aujourd'hui encore, la loi a été donnée justement pour permettre à l'homme de se sauver. Il faut la suivre, et ça nous donnera la clémence de Dieu. C'est ce qui est dit, ou ce qu'ils disent. Mais ce n'est pas l'objet de la loi de Dieu. La loi de Dieu nous a été donnée par Dieu, pour nous donner une exacte et complète connaissance du péché, de notre péché. Je vais prendre un commentaire de Charles Spurgeon, qui a présenté la loi comme un miroir. Et il disait, « En y regardant, vous pouvez voir vos taches, mais vous ne pouvez pas vous laver dans un miroir. Si vous voulez être nettoyé de vos taches, vous devez aller ailleurs. Le but de la loi de Dieu n'est pas de nous purifier, mais de nous montrer à quel point nous avons besoin de purification. pour révéler notre maladie, non pour y trouver un remède. Parce que oui, à travers la loi divine, nous pouvons voir notre péché. Je vais prendre aussi un extrait d'un message d'un pasteur américain qui s'appelle Paul Washer, qui a dit aussi « Combien de gens, même ceux qui se disent chrétiens, vous diront qu'ils iront au paradis parce qu'ils ne sont pas si mauvais. Ils iront au paradis parce qu'ils sont bons. Mais que déclarent les Écritures ? Il n'y a pas de juste, pas même un seul, personne de bon. Tout le monde a péché. Et vous vous dites, mais je n'ai pas tellement péché. Mais combien de fois devez-vous pécher ? Vous avez péché plus de fois que vous ne pourriez compter. Et si Adam et Ève, et même toute la création, n'ont pas pu échapper à la condamnation d'un seul péché, comment est-ce que vous pourrez vous échapper de la condamnation de tous les péchés qui pèsent sur votre tête ? Et vous vous dites, mais pour un homme, je suis plutôt bon. Mais vous ne serez pas jugé sur des standards humains, vous serez jugé par Dieu, un Dieu juste et saint. Et il connaît votre cœur. Si je prends Genèse au chapitre 6, verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Je prends aussi Ecclésiaste au chapitre 9, verset 3. Aussi le cœur des hommes est-il plein de méchanceté, et la folie est dans leur cœur pendant leur vie. Je continue avec Marc au chapitre 7, verset 21-23. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Alors si ces versets ne suffisent pas à vous convaincre du cœur de l'homme, de l'état du cœur de l'homme, l'apôtre Paul lui en cite d'autres entre les versets 10 à 18 du passage qu'on a pris aujourd'hui, qui viennent en fait de l'Ancien Testament, par exemple des psaumes d'Ésaïe, du livre d'Ésaïe, pour décrire justement cette nature de l'homme. Et si vous les lisez, parce que je ne vais pas les reprendre là maintenant, mais qu'est-ce qu'on y voit ? On y voit encore une fois les troubles du cœur, qui sont dans versets 11 et 12. La perversité qui se manifeste par la parole de l'homme, du verset 13 et 14. La méchanceté humaine dans ses actions. Et enfin, le manque de crainte envers l'Éternel. Ça, c'est le verset 18. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Psaume, chapitre 111, verset 10. Aujourd'hui, l'homme ne craint plus l'Éternel. Je ne dis pas que parce qu'on aurait toute la crainte de l'Éternel possible, ben nous ne serions plus pécheurs. Non, parce que cela, c'est en nous depuis Adam. L'homme né avec le péché a besoin d'être justifié. Je vais prendre maintenant une citation de Calvin aussi. « La crainte de l'Éternel est comme une bride pour contenir notre méchanceté. Alors quand elle manque, nous nous sentons libres de nous livrer à toutes sortes de méchancetés licencieuses. » Sans cette crainte de l'Éternel, notre état de pécheur se manifeste encore plus. C'est ce qu'on peut observer autour de nous. Je vais reprendre un autre extrait du message que j'ai commencé, là, de Paul Washer, qui dit aussi, voilà comment on parle du péché aujourd'hui. On parle du péché contre l'homme. On parle même des péchés contre la nature, contre les animaux, contre les arbres. Mais personne ne réalise que les péchés sont automatiquement des péchés contre Dieu. Pourquoi est-ce que les péchés sont si terribles ? Parce qu'ils sont commis contre Dieu. Et pourquoi nous ne tremblons pas ? Parce que nous ne savons pas ce que cela signifie. Et pourquoi cela ? Parce que nous ne savons pas qui est Dieu. Un être si glorieux et saint. Nous ne savons pas, nous ne savons plus qui est Dieu, le vrai Dieu, pas celui qu'on imagine pour nous rassurer. Non, nous ne savons plus qui est le Dieu des Écritures. Un être si glorieux et saint, un Dieu juste. Deutéronome au chapitre 32 nous dit « Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. » Alors d'un côté, ça devrait nous réjouir d'avoir un Dieu juste. Parce que je pense que qui ne voudrait pas avoir, que ce soit au travail, un patron juste, qui ne veut pas être dirigé par un gouvernement, un roi juste, ça rassure. Et donc si Dieu est juste, on peut se dire tout va bien. Eh bien non, tout ne va pas bien. Parce que Dieu est juste, il doit faire le bien. Parce que Dieu est juste et qu'il est le juge de toute la terre, eh bien, il doit donc y appliquer sa justice. Et parce que Dieu est juste, et contrairement à ce que beaucoup disent, pensent ou veulent se convaincre, y compris chez les chrétiens encore une fois, Dieu ne peut pas pardonner à l'homme. Dieu ne peut pas justifier l'homme. Et pourquoi ? Ben pour répondre, il faut déjà comprendre ce que veut dire justifier. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui comprennent ce mot, justement, justifier comme, ou qui mettent en synonyme, rendre juste. Et sous ce sens, donc, qui est celui retenu donc, par beaucoup, même chez les catholiques aujourd'hui, justifier, c'est un processus qui va permettre, donc, dans le temps, à l'homme de devenir juste. Sauf que justifier, ça ne veut pas dire ça. Justifier signifie en réalité déclarer juste. Et où est la différence ? Sur ce mot, déclarer. C'est une déclaration, ce n'est pas un processus, ce n'est pas une transformation. Justifier un coupable n'est pas là pour le transformer, pour viser à le rendre juste. Tout comme condamner, qui est le contraire de justifier, n'est pas un processus qui vise à rendre coupable un homme. Il s'agit bien de déclarer juste ou coupable quelqu'un à l'instant où cela est prononcé. Donc je reviens à ma question, pourquoi donc Dieu ne peut justifier et déclarer juste l'homme ? Pour ça, je vais reprendre aussi encore un verset de la Bible, dans les Proverbes, au chapitre 17, verset 15, qui dit « Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. » Si Dieu nous justifie, si Dieu justifie un pécheur, un coupable, alors il n'est plus cohérent avec lui-même, avec son propre caractère. Il ne peut être saint et juste et le rester en devenant en abomination devant lui-même, comme nous dit le verset. Dieu ne peut commettre l'injustice, même au nom de l'amour. L'amour de Dieu est saint, l'amour de Dieu est juste aussi, et la justice demande un jugement, une punition. Un autre exemple, pour bien comprendre, un exemple qui est pris régulièrement peut-être quand on parle de l'évangile aussi, c'est l'exemple du tribunal, du jugement d'un criminel. Et alors pour vraiment bien comprendre, imaginez que ce criminel, c'est pas n'importe quel criminel, hein, mais c'est le meurtrier qui a tué votre femme, votre mari ou votre enfant. Le jugement se passe, tout le monde est convaincu de sa culpabilité. Tout le monde le reconnaît comme coupable, et pour autant, le juge, à la fin, le déclare juste. Aucune peine. Il lui pardonne. Qu'est-ce que vous allez... Voilà, comment allez-vous réagir face à ça ? Qu'est-ce que vous allez penser ? Quelle injustice ! Il ne fait pas son travail, ce juge. Il est injuste. Mais c'est pareil avec Dieu. Dieu, il est juste. Et s'il pardonne le pécheur sans avoir fait justice, il serait alors aussi mauvais et injuste que ce juge. Mais alors, que fait-on ? On a cette équation qui dit que moi, je suis homme pécheur d'un côté, que j'ai Dieu juste de l'autre, qui ne peut me justifier sans aller à l'encontre de sa propre justice, sa propre nature, sans devenir injuste. Donc qui peut donc être sauvé ? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Alors ce texte, je l'ai repris de Matthieu, chapitre 19, qui n'est pas dans ce contexte-là, mais je trouve qu'il va bien aussi dans ce contexte. Et j'en arrive justement à la seconde partie, qui est la réponse à cette question. Comment Dieu peut-il justifier un pécheur tout en restant juste ? ce que Paul reprend aussi des versets 21 à 26. Parce que voici la bonne nouvelle. Il y a une solution, il y a un moyen pour ne pas être condamné. Dieu ne nous a pas laissés sans solution. Car lui, encore une fois, tout est possible. Une bonne nouvelle également, le verset 22 du texte de ce matin nous dit « Sans la loi est manifestée la justice de Dieu ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la justification ne dépend pas de nous. La justification ne nécessite pas d'œuvre de notre part. Alors voici le moyen que Dieu nous a donné pour pouvoir appliquer sa justice, pour pouvoir nous justifier. Il est repris dans le verset 24 à 26 que je vais relire. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Voilà le plan de Dieu. Voilà la réponse que Dieu a donnée pour qu'il reste juste et qu'il puisse pardonner à l'homme pécheur. Jésus-Christ, victime propitiatoire. L'homme pécheur peut désormais être justifié car un autre est mort à sa place. Et cela permet à Dieu de rester juste car la voie de notre salut est alors conforme aux exigences de la loi. Le prix a été payé par Jésus-Christ. Romains 5 nous dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Pour que la justice de Dieu soit satisfaite et que sa colère, sa haine sainte contre le péché soit apaisée, il fallait un sacrifice. Ce sacrifice fut Jésus-Christ. C'était la seule façon pour que toutes les conditions soient remplies et que Dieu puisse nous pardonner. La mort de son Fils unique, bien-aimé. Jésus mort pour devenir notre Rédempteur. Jésus qui a porté notre culpabilité et qui a payé pour nous, pour moi et pour toi. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53. Notre justification nous est acquise gratuitement. Mais elle a nécessité une œuvre considérable et qui ne pouvait venir que de Dieu lui-même. Dieu ne pouvait pas nous pardonner directement sans devenir lui-même injuste. Et nous ne pouvions payer la rançon demandée par nos péchés. Alors Dieu a apporté la solution qui est le sang de Christ. Mais pourquoi est-ce que cela devait être Jésus ? Pourquoi lui ? Parce qu'il fallait que celui qui est mort à notre place soit à la fois homme et Dieu. Et seul Jésus-Christ comprend ces deux caractéristiques. Pourquoi celui qui est mort sur la croix devait-il être à la fois homme et Dieu ? Première raison, Jésus devait être homme et Dieu, car il fallait que celui qui paierait pour les péchés d'un homme eh bien, soit d'une nature semblable à celle des hommes, tout simplement. L'homme est pécheur, il fallait que celui qui soit puni soit homme. Seconde raison, ce Rédempteur dont nous avions besoin devait être Dieu, tout simplement, car Dieu lui-même le dit, le salut vient de l'Éternel. Ça c'est dans Jonas au chapitre 2. On le voit aussi dans Ésaïe chapitre 43 qui dit, c'est moi qui suis l'Éternel, et hors de moi il n'y a point de sauveur. On ne pouvait être sauvé par personne d'autre que Dieu lui-même. Dieu ne partage pas ce titre de sauveur avec personne. Enfin, la troisième raison, celui qui est mort sur la croix à notre place devait être Dieu, car qui, en dehors de Dieu lui-même, peut résister à la colère de Dieu et ressusciter ensuite ? Qui peut supporter la colère de Dieu contre le péché et triompher malgré tout de la mort ? Je prends encore un verset à Jean chapitre 10. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Par la rédemption qui est en Jésus-Christ, tout est accompli. Tout a été accompli. Par sa mort sur la croix, Jésus a bu pour nous jusqu'à la dernière goutte la coupe contenant toute la colère de Dieu contre nos péchés. Une colère qui était sans mélange, qui n'était pas diluée par la pitié et par la compassion. Et par son sacrifice, le sacrifice de Jésus, les flammes éternelles de la colère de Dieu sont éteintes. Voici le message de l'Évangile, donc la voie du salut qui nous est enseignée dans ces versets. L'unique cause du salut vient de la grâce éternelle et gratuite de Dieu. Alors ce don gratuit de Dieu fait disparaître justement l'orgueil de l'homme aussi. Et ça nous oblige à admettre que nous sommes incapables d'obéir parfaitement à la loi de Dieu, que nous avons besoin d'aide et de l'aide de Dieu. Le 2, c'est Jésus que Dieu a exposé dans son sang comme rédempteur et le fondement de ce salut. Et 3, la foi est la condition qui permet à l'homme de s'approprier personnellement le salut. Jean 3, verset 36 nous dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » La foi. La foi est importante. Il faut en effet comprendre que le moyen de salut qui est donné à l'homme par Dieu ne s'arrête pas au sacrifice et à la résurrection de Dieu. Alors attention, je ne veux pas dire que par là que le sacrifice de Jésus n'est pas suffisant, bien au contraire, et je pense que je l'ai dit ce matin. Mais maintenant que la mort a été vaincue, maintenant que le péché a été battu, il faut comprendre que nous devons nous approprier cette victoire pour pouvoir bénéficier de cette œuvre. Et cela se fait par la foi. C'est par la foi que nous pouvons obtenir tout ce que Christ possède lui-même. C'est par la foi que nous devenons un avec Christ. C'est par la foi en Jésus-Christ que s'acquiert la justice de Dieu, pour ceux qui reconnaissent leurs péchés, se repentent et croient en Jésus-Christ. Par la foi seule, car la foi est fondée sur ce que Dieu a accompli. Et non sur les prouesses que nous pourrions accomplir pour lui. Et par la foi, toute la gloire revient alors à Dieu. En conclusion de ce partage de ce matin, j'aimerais d'abord lire 2 Corinthiens chapitre 7, versets 8 à 10. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Je sais que le message de ce matin, ça peut être un message difficile à entendre, encore une fois, qui peut attrister. Mais j'espère que cette tristesse, si tristesse il y a dans votre cœur, eh bien celle-ci deviendra une tristesse selon Dieu, amenant une repentance à salut, comme put le dire l'apôtre Paul aux Corinthiens dans ce passage. Et avant de terminer, je vous laisse aussi avec cette pensée. Devant un tel amour, celui de notre Dieu, devant un tel sacrifice, celui de Jésus-Christ. Comment ne pas l'aimer en retour ? Comment ne pas vouloir lui obéir en retour ? Comment ne pas avoir envie de le servir de tout notre cœur, de toutes nos forces ? Comment pourrait-on encore se complaire dans le péché ? Je pense que nos difficultés quotidiennes en la matière, mes difficultés quotidiennes en la matière, que ce soit dans l'amour, le service ou encore l'obéissance. Cela nous montre à quel point justement nous avons besoin de continuellement méditer ce message de l'Évangile. À quel point nous avons besoin de le croire du plus profond de notre cœur. Ne tombons pas dans cette connaissance stérile, mais vraiment approprions-nous par la foi ce message de la croix. L'homme pécheur sauvé par le sang de Jésus, Christ, mort pour nous, mort pour moi et mort pour toi. Alors que toute la gloire en revienne à Dieu. Amen.